Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne dans cette émission Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. On va voir la deuxième partie de Georges Sand, cet écrivain qui, a quand même été un personnage. Et René-Joseph nous parle donc dans cette deuxième partie, de la vie de Georges Sand, bien sûr. Une vie finalement assez tourmentée. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, c'est notre deuxième partie, comme indiqué, de la vie et de l'œuvre de Georges Sand. Les deux sont associés. Vie intense, tumultueuse, aventureuse, et puis une œuvre aussi abondante, hein, puisqu'il y a 60 romans au moins, et 70 autres, types d'œuvres du théâtre. Et puis, notamment, je l'avais indiqué lors de la première partie, il y a une œuvre, qu'on va dire posthume, qui a été découverte après sa mort, et notamment par un historien, ou plutôt un professeur de littérature, un chercheur qui s'est spécialisé, on va dire, consacré sa vie professionnelle à Georges Sand, et qui a publié, qui s'appelait Georges Lupin, Lupin, c'est pas un homonyme, mais contemporain, puisqu'il était passé, me semble-t-il, à Apostrophe ou à Bouillon de Culture, chez Bernard Pivot, et il a fait le montage, recherché les lettres, les extraits de journaux intimes, etc. Montage fait, il en a produit à peu près plus de 20 volumes, 20-25, je dis, voilà. Et là, je me suis référé pour cette biographie, enfin pour cette émission, notamment à l'ouvrage de Jean Chalon, qui cite Georges Lupin, et puis également, j'ai cité un article de... l'auteur ne me vient plus, je ne l'ai pas sous les yeux. Je pense toujours à Maurice Genevoix, mais ce n'est pas ça. C'est André Mauroy, André Mauroy, qui a aussi beaucoup écrit sur Georges Sand. Hein. Et lors de notre première émission, on avait évoqué l'épisode du voyage à Venise avec Musset, hein, les amants de Venise ou les enfants du siècle. Et c'était donc un article rédigé dans une vieille revue qui paraissait dans les années 70 par André Mauroy. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu. Mais je ne vais pas m'étaler sur la biographie dans tous les détails, parce que c'est très, très touffu, très riche. Alors on évoquera certains aspects de la personnalité de Georges Sand. Alors j'y reviens un petit peu. Donc on sait qu'elle est née en 1804, le 1er juillet 1804. Alors elle est fille de Maurice Dupin de Franqueuil et de Marie-Victoire de Laborde. Alors, ses ascendances sont contrastées, puisque sa grand-mère, la mère de Maurice, hein, son père, était une fille, une bâtarde, mais enfin, une fille adultérine de Maurice de Saxe, donc prince de Saxe, hein, royaume qui est aujourd'hui inclus dans l'Allemagne, la Saxe, et d'ailleurs sa cousine, la cousine de la grand-mère de Georges Sand, hein, c'est-à-dire la nièce de son père, tout simplement, était Marie-Joseph de Saxe, qui avait épousé le dauphin, fils de Louis XV, et père donc de Louis XVI, etc. Hein. Voilà. Louis XVIII, les futurs Louis XVIII, Charles X. Bah. Donc sa grand-mère était cousine par le sang, hein, même si c'était par la main gauche, de Louis XVI et de Marie-Antoinette par alliance. Mais par sa mère, Marie-Victoire de Laborde, c'était une mésalliance. Son père Maurice avait épousé, donc c'était un oiseleur. Elle était fille d'un oiseleur et elle vécut aussi avec ses tantes. Enfin, avec ses tantes, c'était, on va dire, des dames de petite vertu, un peu courtisane, quoi, voilà, sa mère. Mais qui s'était amendée puisqu'elle avait épousé Maurice et donc elle fut la mère donc de Georges Sand, et les deux avaient d'ailleurs des enfants de chacun de leur côté. Maurice avait un fils, je crois Hippolyte, et Marie-Victoire de Laborde avait aussi donc une fille, je crois Caroline, bon, qui étaient les demi-frères et sœurs de Georges Sand. Voilà. Donc on a évoqué le personnage multiface qui était Georges Sand. Alors, ça a été une grande amoureuse, elle a eu beaucoup d'amants, hein, et dont certains célèbres, prestigieux. Donc, eh bien, je parlais bien sûr, on a eu Musset, donc ce fameux voyage à Venise en 1833-34, qui rentrait dans la légende, hein, mais en réalité, on sait que c'était plus, en fait, les amants de Venise, c'était pas seulement Musset et Sand, puisque Musset était très malade, enfin, il avait des crises graves, hein, et donc il a été rapatrié à Paris, ça a duré quelques jours, hein, leur aventure, et c'était surtout Pagello, Pietro Pagello, ce médecin vénitien, quoi, qui avait soigné Musset, appelé par Sand, et c'est une histoire d'amour qui a duré quelques mois entre Sand et Pagello. Donc voilà. Puis il y a eu bien sûr Chopin. Alors Liszt n'a pas été son amant, c'était un ami, hein. Liszt était avec une personnalité de l'époque aussi, Marie Dagout, mais on prête qu'aux riches, quoi. Donc il y a eu Chopin et beaucoup d'autres, hein. Donc alors parmi ces autres, je veux juste laisser, alors peut-être sur l'éventail de l'envergure, disons, de Sand, qui est devenue une légende, hein. C'est une qui perdure aujourd'hui. Donc c'était la romancière dans son œuvre littéraire. Elle a écrit beaucoup de romans, je l'ai dit, inégaux, mais enfin, parce que l'œuvre est tellement abondante, on connaît La Mare au Diable, on connaît Les Maîtres Sonneurs, on connaît La Petite Fadette. Alors c'est des romans champêtres qui se passent dans le Berry, qui utilisent les légendes aussi du Berry, avec un côté fantastique. C'est le cas, de la Mare au Diable, hein. Voilà, je raconte pas l'histoire, c'est une errance dans le brouillard entre une jeune fille et un jeune veuf de 30 ans, bon, qui vont finalement s'épouser, et ils errent dans la brume, hein, et il y a toute cette espèce d'ambiance, je l'ai dit, de fées, voilà. Les légendes du Berry, un côté un peu diabolique peut-être. Voilà. Elle fut aussi donc journaliste. Elle a créé, c'est avec d'autres, des revues. On en parlera. Et puis elle a écrit des pièces de théâtre, mais avec moins de brio, hein. Des pièces de théâtre, des écrits politiques. Et puis toutes ces correspondances, je n'y reviens pas, très nombreuses, des dizaines de milliers de lettres, hein, parce qu'à l'époque on écrivait beaucoup, puis là c'est, et puis c'est son journal, l'autobiographie, l'histoire de ma vie, voilà. Alors elle a eu avec son époux, le baron Dudevant, puisqu'elle a épousé Casimir Dudevant, mais c'était plutôt un compagnonnage, hein. C'était un mariage arrangé. Alors deux enfants, Maurice, qu'elle a adoré toute sa vie, et puis Solange, sa fille, qui était probablement adultérine, mais ce fut une bonne mère, et elle aimait surtout son fils. Avec sa fille, il y a eu beaucoup de conflits. Voilà. Donc, on la connaît, c'est la châtelaine de Nohant. Alors, Nohant est devenu le lieu, un peu le temple où furent accueillis. C'était une ferme, mais qui coûtait plus d'argent qu'il n'en rapportait. Et donc, Georges écrivait, c'était une bagnarde de la plume, pour gagner sa vie. Et puis, toute une... Outre ses enfants, hein, qui ne faisaient pas grand-chose, en fait, il y avait des invités à nous, hein, une vingtaine de bouches à nourrir, à peu près. Donc c'était prestigieux, si on peut dire, c'est rentré dans la légende, mais elle écrivait pour gagner de l'argent, voilà, pour vendre sa plume. Et il est vrai qu'elle la vendait, sur les éditeurs lui faisaient un pont d'or, mais tout passait dans les dépenses et dans tous ces parasites aussi qui venaient, outre les grands les écrivains de l'époque et musiciens. Alors par exemple, bien sûr Flaubert est venu à Nohant, et puis donc bien sûr Chopin, on l'a dit, Musset, Liszt, et également Balzac, voilà. On venait à Nohant, c'était un lieu prestigieux, c'était un peu un temple de la littérature, si on veut. Enfin, il fallait y passer, il y avait un style, voilà. Bon, alors elle fut donc une aventurière dans sa vie, bien sûr privée, avec les amants très nombreux, une voyageuse en son temps. Enfin, il y a eu le voyage en Italie avec Musset, puis il y aura le voyage en Espagne, en fait au Baléares, à Majorque, avec Chopin. Hein. Alors elle a été politiquement très engagée, c'était socialiste, elle a été convertie au socialisme. Et puis on verra qu'après après 1848, après les événements où il y aura une répression, eh bien, elle se retirera de la politique et elle deviendra, après avoir été presque une révolutionnaire pure et dure, elle sera toujours républicaine, mais très modérée. Et on verra que, par exemple, au moment de la Commune de Paris, en 1871, on a eu la semaine sanglante. Le gouvernement de M. Thiers, qui réprime le gouvernement versaillais, qui réprime les communautés, eh bien, elle soutient Thiers, elle soutient la répression. Hein. Voilà. Et, avec d'autres, hein, par exemple, un certain Zola aussi. Elle a un côté mystique, un côté religieux, sous l'influence d'un personnage qui s'appelle Michel Roux, qui est un doctrinaire, un philosophe, enfin un penseur. Elle adhère à sa doctrine qui est un peu à la fois philosophico-politique et religieuse aussi. Il y a une foi en la réincarnation, que l'homme progresse sans arrêt et qui revient dans des vies ultérieures. Donc il se réincarne, mais avec une progression constante. Voilà. Et puis c'est une notion d'humanité qui fait un tout. L'homme n'est jamais isolé, il est solidaire, c'est un ensemble. Il y a la patrie, peut-être la famille aussi, mais bien encadré. C'est pas, il faut pas que ce soit trop de famille, trop de patrie, voilà. Mais par ailleurs, on verra qu'elle a un peu aussi la foi du charbonnier. Elle va perdre au moins 3 de ses petits-enfants et elle dit quelque part, dans une lettre notamment, à un ami qui lui-même a perdu son fils, nous les retrouverons, je gobe tout, j'adhère à tout ce qu'on dit dans la religion, quoi. Donc il y a un côté mystique. Donc, alors sur ses amants, je reviens pas sur Musset, hein, qui est très tourmenté, et sur Chopin. Musset et Chopin, c'était un peu comme des enfants, parce qu'elle était un peu plus âgée, 10 ans de plus que, c'était des êtres tourmentés, des écorchés vifs. Et donc, il y a un côté protecteur chez elle, elle le dit. Elle est un peu une mère poule pour eux, quoi, autant qu'une amante. Voilà. Et donc, avec Chopin, il y aura ce voyage à Majorque, comme il y a eu avec Musset en 1833-35 à Venise. Et avec Chopin, ça sera donc vers 1838-39. Alors là, ça se passera mal aussi. Au début, ça sera parfait. Chopin est phtisique. Et alors, ils vont être traités comme des pestiférés, parce qu'on redoutait à l'époque la tuberculose. Et alors qu'ils devront quitter leur logement à Palma, ils s'installeront dans une vieille chartreuse. Ils vont passer tout un hiver là. Alors là aussi, puis leur genre de vie dans une Espagne du 19e va les désigner comme des très originaux, parce qu'elle y va avec Chopin et ses enfants qui sont adolescents, Maurice et Solange. Alors elle s'habille en homme aussi, puis ils parcourent la campagne, ils vont pas à la messe, ils se baladent la nuit parce que c'est des romantiques, tout ça, ça scandalise, quoi. Et ils finiront par quitter le Majorque, et là elle écrira un roman, alors très pamphlé contre les Espagnols de l'époque, contre les Majorquais, voilà. Le voyage à Majorque, je crois que je dirais. Donc, presque un peu injuste aussi, excessif. Elle rencontre aussi Félicité de Lamennais, j'en ai parlé, l'auteur de Paroles d'un croyant. Alors, Lamennais, c'était un penseur, un prêtre, qui était révolutionnaire, on va dire, qui voulait une église des pauvres, auprès des pauvres. Hein. Alors c'était pas du tout dans l'esprit du 19e siècle notamment, et il finira par quitter l'église. Alors elle le soutient totalement. Hein. Elle lui dit, vous faites partie des saints et de notre église nouvelle, vous êtes un père, voilà, pour notre église nouvelle. Elle adhère totalement aux doctrines de Félicité de Lamennais qu'elle connaît, voilà. Et puis il y aura Pierre Leroux et Jean Reynaud. Alors Pierre Leroux, c'est ce personnage que j'ai dit qui deviendra son maître à penser, hein, qui à des idées aussi de justice sociale. Voyez. C'est cette doctrine que j'ai vaguement évoquée. Hein. Et puis, il y aura aussi, par exemple, Michel de Bourges, on va parler, c'est un avocat qui lui, l'a converti au socialisme. Michel de Bourges, en fait, c'est son pseudonyme, parce qu'il il vit à Bourges. Elle le rencontre lors du procès avec Casimir, pour la séparation, puisque à l'époque sous la monarchie de Juillet, il n'y a pas le divorce. Hein. Le divorce avait été aboli lors de la Restauration, et donc c'est une séparation de corps. Voilà. Elle rencontrera aussi Prosper Mérimée, mais ce sera un flop. Hein, je veux dire, c'est une histoire d'amour raté, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça se passe mal avec Mérimée, mais c'est une grande déception. Donc nous retrouvons Georges, l'incandescente Georges Sand, après l'intermède musical.